Achim!
De retour dans le magazine de Canal Sud, vous êtes bien à l'écoute du 92.2, on est ensemble jusqu'à 14h, là il est 13h05 et on est en compagnie de Éléonore et de Franck dans le studio, salut à vous.
Salut.
Vous allez nous parler d'un rassemblement, d'une mobilisation pour défendre les droits, conditions de travail surtout et plusieurs revendications qu'on aura le temps d'aborder, un rassemblement devant le rectorat de Toulouse. Jeudi 2 décembre à 14h, si je ne me trompe pas.
Tout à fait, c'est ça.
Du coup, on se retrouve juste après pour en parler. Là, on va prendre 2-3 minutes pour faire un petit tour de l'agenda politique de cette journée et de la semaine, puisque demain, on a une journée bien chargée. Mais pour commencer, aujourd'hui, à 17h30, en fait, il y a un collectif toulousain qui s'appelle Levée des brevets sur les vaccins, dans lequel on trouve un certain nombre, enfin il y a 7 organisations au total qui se rassemblent devant la préfecture de Toulouse pour exiger la levée des brevets sur les vaccins. Donc à l'instar de l'Inde et de l'Afrique du Sud, ces organisations demandent à ce que la France participe activement à l'ouverture des brevets sur les vaccins, notamment celui du Covid. Aujourd'hui, ce sont 10 000 personnes qui meurent chaque jour du fait du Covid. Et donc du coup, ce que ces organisations demandent, c'est au moins de lever les brevets sur les vaccins, brevets détenus, enfin dont la détention privée accentue les inégalités entre notamment les pays du Nord, enfin les pays riches et les pays pauvres. Parmi ces organisations, il y a ACT UP Sud-Ouest, ATAC, la CGT, CNT, FSU Sud. C'est ce soir à 17h30 devant la préfecture de Haute-Garonne, donc à Toulouse. Voilà pour aujourd'hui. J'oublie peut-être des choses, mais j'ai pas trouvé les infos. Sachez que demain, il y a une grosse journée de mobilisation. C'est la journée internationale de lutte contre le VIH. Il se trouve que ACT UP sera dans les studios de Canal Sud pour justement pas en parler. Mais c'est aussi une journée de lutte contre l'assurance chômage puisque, et là je vais prendre mon téléphone pour vous lire le message que j'ai reçu. Il y a plusieurs rendez-vous. Ça commence à 10h devant la médiathèque José Cabanis en soutien à la grève des bibliothécaires contre le pass sanitaire. Ce sera suivi à midi d'un rendez-vous à Mirail, au métro Mirail Université où il y aura du tractage pour appeler à une mobilisation le 4 décembre. À 14h, une action coup de poing au métro Jean Jaurès et à 18h, un rendez-vous avec ACT UP au métro Jean Jaurès pour justement cette journée mondiale de lutte contre le sida. Donc cette journée, elle est menée notamment par le collectif Intercollectif et Interlutte, action de popularisation, ça s'appelle. L'Intercollectif organise une manifestation du 4 décembre, donc samedi, auxquels sont associés des gilets jaunes et des précaires qui proposent de mettre nos forces en commun pour porter des revendications le temps d'une action commune de popularisation. Il y aura une déambulation dans la ville et voilà. Ça c'est pas ce dont je voulais vous parler, mais bon, au moins ça permet d'annoncer cette journée de samedi 4 décembre. Demain, alors là, on a écouté Lisa, qui est à ESH, qui nous parlait de ses conditions de travail. Ce qui est intéressant, c'est que demain, à 8h, il y a un collectif de parents, enfin en l'occurrence c'est la FCPE, enfin, ils se représentent par la FCPE, qui propose de soutenir justement les ESH à travers un petit déjeuner de mobilisation devant l'école Étienne Billière, rue des Tures, puisque en fait ses parents demandent une école inclusive et ils demandent plus d'AESH et une meilleure reconnaissance de leur travail. Donc ils ont lancé une pétition qui a déjà récolté plus de 110 signatures auprès des parents d'élèves de l'école. Et du coup, ce qu'ils proposent, c'est un petit déjeuner de mobilisation demain, mercredi 1er décembre, à 8h. Voilà, donc parmi leurs revendications, il y a notamment l'abandon de la politique de mutualisation des moyens à outrance, la création d'un véritable statut de fonction publique pour reconnaître le métier d'AESH, le recrutement massif d'AESH pour permettre aux élèves ayant des notifications d'être accompagnés à hauteur de leurs besoins et la formation de ces AESH pour améliorer la prise en charge des élèves. Voilà, du coup, je m'arrête là pour l'agenda. On va faire une courte pause musicale. N'oubliez pas que pour la journée de demain, il y a donc ce petit déj à, enfin, ce déjeuner de mobilisation à 8h et le rendez-vous à 10h devant la bibliothèque José Cabanis pour soutenir les bibliothécaires opposés au pass sanitaire.
Oxy pussy boxing. And my girl talk shit, what she saying? Fly shit only. Up on 2, 3, shit, 4, 5 booties. J'crois que j'suis béni. Fuck a cop aussi, j'ai ma cop aussi. J'lui fais un Frodi. Hey, elle me chuchote à l'oreille. Et j'ai la femme, j'conce les petits verres comme Popeye. Suzuki pas sommeil, faut lui donner sa paye. Elle bosse comme le soleil. Pas dans les fripes, Elle dans ses tripes, Ace dans la strip, Faut que tu t'agrippes. Hey, toxique, toxique, pourquoi tu toxiques? J'bosse vite, j'bosse vite. Elle fait que grossir, elle fait que grossir. Faut forcer, bitch. Toxique, toxique, pourquoi tu toxiques? J'bosse vite, j'bosse vite. Elle fait que grossir, elle fait que grossir. Faut forcer, bitch. Là, la bosse finale. Elle donne sa fraise épiginale. Elle sont médimales, sous moi les sous-roms. J'ai que 500, pas 10 balles. La montre fait tic-tic. De réinvestir vite vite. Comme la bourse fait commenter. J'ai mis l'harmonie dans mon thème. Ma bitch m'appelle la machette. J'ai mis le caviar dans son assiette et son tout droit. Hey, je suis dans sa tête, elle dit non, non, non. Hey, hey, tu peux être juste ma ho. Ta boîte est une altro. Je suis dans cette shit, yeah ho. Pussy comme pique-nique. Demande à doser. Je fais comme arroser. Elle veut s'arroser, doser, non, non, non. T'es dans le gossier, j'suis dans les grossiers. C'est trop et toxique, non, 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 non. Hey, toxique, toxique, pourquoi tu toxiques? J'bosse vite, j'bosse vite. Elle fait que gossip, elle fait que grossir. Faut fuck cette bitch. Toxique, toxique, pourquoi tu toxiques? J'bosse vite, j'bosse vite. Elle fait que gossip, elle fait que grossir. Faut fuck cette bitch.
Il est 13h passé de 12 minutes sur Canal Sud 92.2 en compagnie de nos camarades AED qui justement nous donne rendez-vous jeudi 2 décembre 14h devant le rectorat. Vous allez fêter donc l'anniversaire de ce mouvement spécifique aux vies scolaires qui a été entamé l'année dernière avec peut-être des, avec peut-être les mêmes revendications, peut-être des revendications qu'ont évolué. On va justement en parler. Peut-être pour introduire ce moment-là avec vous, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter et nous présenter un petit peu l'historique de ce mouvement des AED, voilà.
Oui. Alors moi, je m'appelle Franck, j'ai 31 ans et je suis AED depuis 3 ans. Je suis syndicaliste CGT. Et donc moi, je suis impliqué dans ce mouvement depuis sa création. C'est parti en novembre 2020. Donc l'historique, pour le reprendre rapidement, ce statut, ça fait 18 ans maintenant même, depuis 2003 qu'il a été créé. Donc les assistants d'éducation, c'est ce qu'on appelle vulgairement les pions dans les établissements, un peu plus sérieusement les surveillants. Fin novembre 2020, à l'Académie d'Aix-Marseille, qui s'est fortement mobilisée, des vies scolaires ont commencé à dire stop, l'effet Covid ayant rajouté toute une charge de travail sur nos postes déjà bien lourds et bien précaires, a mis un peu le feu aux poudres. Et sur les réseaux sociaux, il y a eu un vent de contestation et de mobilisation en se disant « Non, mais c'est vrai qu'en fait, là, il y en a marre et que ça ne peut pas durer. » Et du coup, voilà, sur un week-end, notamment 21 et 22 novembre, je me suis noté parce que c'est vrai que c'était une date particulièrement chargée d'émotions. Je trouve que toutes ces vies scolaires arrivent à se mettre en réseau. Nous qui étions toutes et tous isolés dans nos petites vies scolaires en pensant qu'on était seuls au monde et avec nos problèmes, ça a permis de beaucoup aussi libérer la parole et on s'est monté en collectif, plus d'une cinquantaine de collectifs, en disant on va se mobiliser le 1er décembre partout en France, avec ou sans les syndicats, avec ou sans l'appui de notre direction, avec ou sans rien, mais on ira. Parce que de toute façon, on n'a pas grand-chose à perdre, on n'a déjà pas grand-chose sur nos postes, donc on y est allé, quoi.
Éléonore, justement, est-ce que toi, tu veux peut-être présenter un petit peu le métier dans... Bon, ça pourrait prendre beaucoup plus de temps, mais dans les grandes lignes, quelles sont les missions des AED pour replacer un petit peu, pour savoir de quoi on parle?
Oui, donc moi, c'est Éléonore, j'ai 31 ans aussi. C'est ma deuxième année d'AED dans l'éducation nationale. Les missions de base, c'est la surveillance générale des élèves au sein de l'établissement. Donc tout ce qui est portail, couloir, la cantine, bon, tout ça. C'est aussi le suivi des absences et des retards, l'aide aux devoirs évidemment, et de plus en plus d'autres missions qui se sont greffées à tout ça. Le suivi des élèves, l'accompagnement d'élèves en difficulté, et bien d'autres. Donc c'est des missions déjà assez conséquentes, hein, quand on sait qu'on manque d'AED, on manque de CPE, donc évidemment la charge de travail... ploie un petit peu, nous on ploie en tout cas sous cette charge de travail, on a des semaines assez longues, on est en 41 heures semaine hein, quand on est en temps plein, sachant que par exemple si on fait une nuit d'internat dans notre temps plein, on va être en temps de présence sur l'établissement pendant 48 heures. Ça peut monter jusqu'à 54 heures si on fait beaucoup de nuits d'internat. Donc c'est beaucoup de temps au sein de l'établissement, beaucoup d'investissement auprès des élèves, on est leur, je pense, leur premier repère hein, dans l'établissement. On va aussi aider à détecter les cas de harcèlement, les élèves un petit peu isolés, le mal-être. Donc on est des acteurs quand même importants en termes éducatifs. Et c'est ce qui, malheureusement, n'est pas reconnu. C'est-à-dire qu'on fait ce travail-là, on nous demande de le faire, mais on n'est pas reconnu pour ce travail-là, on n'est pas reconnu comme membre à part entière de la communauté éducative. Et c'est fort dommage. Donc ça fait aussi partie un petit peu du vent de colère qui s'est soulevé... Donc une demande de reconnaissance de nos missions et de notre implication au sein de l'établissement parce que, voilà, on est là plus longtemps que la plupart des gens de l'établissement en termes de temps de présence. Et c'est pas trop reconnu, malheureusement.
Parce que justement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous travaillez, vous avez des horaires de 41 heures par semaine, payés 1 200 €.
Oui, c'est ça. En fait, on est annualisé, donc on doit effectuer 1607 heures de travail à l'année civile, enfin une année de 12 mois, j'entends. Et donc c'est réparti sur 39 à 45 semaines suivant les établissements, parce que là aussi, il y a des semaines administratives, parfois ce genre de choses, ce qui représente 41 heures hebdomadaires de travail effectif payé, sachant que la nuit, quand on fait une nuit d'internat, on est payé au forfait. Donc entre 22h et 6h30 ou 7h du matin, suivant les établissements, on est payé à 3h. Alors effectivement, c'est vrai qu'on dort hein, la nuit, mais on est quand même d'astreinte en fait. Donc on a des élèves malades, on a parfois des alarmes incendies qui se déclenchent. Enfin, on est quand même toujours de service et on est présent sur l'établissement. Donc pour nous, ça devrait être du temps reconnu de travail. Donc en fait, comme le disait Éléonore, sur du temps de présence, on peut monter jusqu'à 50 heures par semaine, ce qui demande quand même aussi un sacrifice sur sa vie personnelle.
50 heures semaine hors remplacement.
Hors remplacement.
Voilà, parce que ça, les remplacements, il faut quand même, je pense, aborder ce sujet. Hein. Quand on a un collègue qui est absent, hein, ou une collègue, on va pallier à sa absence en le remplaçant. En le remplaçant en sus de nos heures de travail. C'est-à-dire que on va pouvoir enchaîner une nuit, un jour, une nuit, par exemple. Donc du 36 heures d'affilée sur l'établissement. On peut faire des semaines à 55, 60. J'ai un collègue qui a fait le record de 83 heures l'an dernier en une semaine, puisqu'il a remplacé sur plusieurs nuits d'affilée en plus de ses journées. Donc là, on touche les limites un petit peu de notre cadre de travail. Si on a un accident du travail durant ces heures-là, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'on est couvert ? Donc c'est normal de devoir pallier à l'absence puisqu'on encadre des élèves et il faut assurer la sécurité des élèves et de l'établissement. Mais à quel prix ? À quel prix ? Voilà, c'est compliqué de garder l'énergie nécessaire à bien faire son travail dans ces moments-là.
Puisqu'on parle du temps de présence et de précarisation, il me semblait qu'il y avait assez peu de temps plein parmi les AFD. Il me semblait justement que c'était très morcelé, saupoudré, les postes saupoudrés, à base de 15 heures, 20 heures.
Alors oui, c'est vrai que c'est saupoudré parce que les besoins nécessitent une certaine forme de flexibilité sur le personnel. Donc c'est vrai que très souvent dans les équipes, on va se retrouver avec des mi-temps ou des trois quarts temps pour pouvoir se montrer un peu plus flexible sur la semaine. Pour autant, moi, ça fait 3 ans que j'exerce et j'ai l'impression que quand même, il y a des postes de temps plein qui sont nécessaires pour effectuer justement notamment des suivis sur la semaine, avec un taux de présence en journée, par exemple, important.
Ouais. Bien sûr. En termes de proportion, du coup, par exemple, sur une vie scolaire, par exemple, toi, Éléonore, il y a combien de temps plein, combien de temps partiel ?
Alors, je dirais qu'on est un tiers, voire un peu plus de temps plein.
D'accord.
Et le reste en 50%, voire 75%.
Okay.
On a aussi eu un poste à 25% pendant un moment. Donc cette personne faisait une journée dans la semaine. C'est vrai que la présence des temps pleins est quand même indispensable. Mais nous, on est dans des lycées. Et c'est très différent dans les collèges. L'organisation de la vie scolaire, du temps de travail des AED. J'ai des collègues qui sont à mi-temps en collège et mi-temps en lycée. Et ça, c'est de plus en plus fréquent aussi, d'être en temps plein, mais sur deux établissements différents finalement. Avec deux façons de fonctionner différentes. Enfin, voilà, c'est quand même une charge de travail supplémentaire. Et ces AED en mi-temps en collège, souvent, sont là pour le renfort, pour le self, pour la surveillance de la cantine le midi, vérifier les carnets, les cartes de cantine, le placement. Là, c'est vrai qu'avec les mesures Covid, notre action dans ce genre de moment a été, stimulé, puisqu'il faut vérifier le placement en quinconce, le masque dans le self. Donc, c'est vrai qu'on a besoin d'être plus nombreux sur ces temps de restauration du midi, voire du soir aussi, quand il y a un internat.
Et en même temps, peut-être qu'il y a vos missions aussi qui sont transformées vers plus de contrôle. Et
absolument.
On en parlait tout à l'heure. Contrôle, surveillance, vérification.
Alors, je pense que mon collègue... pour avoir plus de recul dessus, parce que moi, j'ai commencé en plein Covid. Donc, je n'ai pas connu le avant Covid. J'ai juste eu les retours de collègues qui étaient là avant le Covid et qui ont vu la réelle différence hein, de fonctionnement et des missions attribuées aux AED avant et après le premier confinement et les autres qui ont suivi. Mais c'est vrai que sans avoir connu le avant, on sent une pression supplémentaire de flicage, on va dire ça comme ça.
Oui, le flicage... Alors moi, c'est pas une expérience personnelle parce que ça, je l'ai pas vécu. Mais bon, on travaille en collectif. Nous, on est là aussi en tant que représentant du collectif des AED. Donc, on essaie de représenter un petit peu toute la palette des situations qui sont rencontrées par les collègues. Et c'est vrai que parfois, il y a du flicage de devoir faire le tour des établissements pour savoir quels profs sont là ou sont pas là. Si les profs sont bien arrivés à l'heure, s'ils sont pas arrivés à l'heure, il faut faire remonter à la direction. Ça, je l'ai vécu une fois quand même dans l'établissement où j'étais avant, où il faut faire remonter la direction. Les profs, à quelle heure ils arrivent pour prendre leur classe, puisque tant que le prof n'est pas arrivé, ils sont sous la responsabilité de la vie scolaire. Et donc, en fait, après, il faut aller balancer les enseignants qui ont eu 5 minutes de retard sur leur cours parce que c'est le service vie scolaire qui a pris ce temps-là. Enfin bon, on est des fois dans des situations un peu absurdes, mais après le contrôle c'est aussi le vigipirate quoi. On nous demande d'effectuer à l'entrée des établissements le vigipirate. Alors ça veut dire quoi faire vigipirate ? Moi je suis pas policier, faire vigipirate je sais pas ce que c'est, j'ai pas d'arme à feu et c'est pas le but. Ça veut dire quoi faire vigipirate ? Ben, c'est s'assurer que les véhicules ne se garent pas à l'entrée de l'établissement. Donc, faut gérer la circulation. C'est essayer d'être vigilant par rapport aux intrusions d'objets qui ne devraient pas rentrer dans l'établissement. Alors, on va pas jusqu'à vérifier les sacs, enfin, en tout cas, pas sur mon établissement, mais c'est déjà arrivé à certains collègues à qui on a demandé d'aller vérifier dans les sacs si tout allait bien. C'est pas notre boulot. Le problème, en fait, c'est que comme on a un poste un petit peu polyvalent à tout faire, des fois, on se permet de nous demander des choses qu'on devrait pas nous demander. Au-delà du fait qu'on n'a pas à les faire. Elles sont presque déraisonnables, en fait. C'est juste inacceptable. Enfin, nous, on est dans des rôles d'éducateurs et qu'on aille vérifier s'il y a des intrusions d'objets dangereux, quoi. Enfin, où on est, là.
Je vous propose de faire une petite pause musicale avant que, justement, on revienne sur, plus précisément, les revendications portées jeudi prochain à 14h devant le rectorat.
Comme un premier jour d'école, j'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Comment grandir si je ne comprends pas l'école? J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Ils me répètent, faut grandir, trouver travail, fonder famille, penser à venir. Mauvais bulletin, on m'a dit l'amour avant l'argent. Mais j'ai besoin d'argent depuis que l'amour est à vendre. Pendant ce temps, maman cherche les billets. Papa dans nos prières. Mauvais élève, je suis dissipé. Le frère lui veut briller. Maman cherche les billets. Papa dans nos prières. On m'a pas appris à gérer les drames de la vie, donc je suis partie en vrille. Ouais. Coup de pression comme un premier jour d'école. J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Comment grandir si je ne comprends pas l'école? J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Coup de pression comme un premier jour d'école. J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Comment grandir si je ne comprends pas l'école? J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Pas facile d'être un enfant, mais c'est encore pire d'être un enfant qui devient grand. Mauvais parents, on me dit faut s'inquiéter pour plus tard. J'ai pas peur de la mort, quand elle viendra je ne serai plus là. Pendant ce temps, maman cherche les billets. Papa dans nos prières. Mauvais élève, je suis dissipé. Le frère lui veut briller. Maman cherche les billets. Papa dans nos prières. On m'a pas appris à gérer les drames de la vie, donc je suis partie en vrille, ouais. Coup de pression comme un premier jour d'école. J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Comment grandir si je ne comprends pas l'école? J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Coup de pression comme un premier jour d'école. J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Comment grandir si je ne comprends pas l'école? J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école.
Il est 13h passé de 26 minutes sur Canal Sud 92.2 dans le magazine en compagnie de camarades AED et de camarades Agnès, intervieweuse pour notre plus grand bonheur. Donc le rendez-vous au rectorat jeudi 2, ce sera un rendez-vous aussi national ? Non, c'est pas la question que je voulais poser. Je voulais parler du fond. Un objet spécifique de votre mobilisation, c'est celui de la titularisation, puisque faut peut-être rappeler que ce statut d'AED, ce métier ne peut être, on va dire, exercé que 6 ans, que pendant une durée de 6 ans. Après 6 ans, bye bye, merci, au revoir, fais tes valises et va-t'en. Sachant qu'en plus c'est un boulot, t'as pas mal de meufs célibataires. qui le font. Et du coup, c'est bref, hein, tu te fais quand tu perds quand tu perds ton boulot, c'est compliqué, quoi. Et donc, du coup, une des revendications, c'est la titularisation des AED. Est-ce que vous voulez en parler un peu?
Oui, alors c'est vrai que la titularisation, ça nous paraît assez important. Alors, pour donner un petit contexte, on va donner quelques éléments sociologiques. La moyenne d'âge des AED à l'heure actuelle, c'est 30-35 ans. C'est des gens qui sont pas étudiants. Il me semble, le pourcentage que j'avais vu, c'est 20 ou 25% d'AED qui sont étudiants. Donc, un quart, voire moins. Beaucoup d'AED sont des mères célibataires, effectivement. Ou des personnes en reconversion, en recherche d'emploi, qui débutent le métier le temps de trouver mieux et qui, en fait, se découvrent une vocation à faire ce métier. Donc des gens qui désireraient pouvoir l'exercer plus longtemps que 6 ans, sans devoir aller dans le privé, où les places sont chères, évidemment, puisque c'est des CDI dans le privé. Donc une fois que la place est prise, elle est prise normalement jusqu'à la retraite. Donc elle se libère beaucoup moins facilement. La titularisation, ça impliquerait deux choses, en fait. Parce que cette titularisation des AED ne va pas à l'encontre des étudiants. C'est-à-dire que c'est pas pour éjecter les étudiants qui restent de ce métier-là. Au contraire. Hein. Donc, on scinderait en deux, si vous voulez, les missions des AED. Donc, on garderait les AED réservés strictement aux étudiants pour les missions de surveillance, les missions de base hein, de ce métier, qui demandent pas forcément une présence sur le long terme, toute la semaine, avec un suivi rigoureux des élèves et des cas les plus difficiles, disons. Et d'un autre côté, la création d'un statut, le statut d'éducateur scolaire, titulaire de la fonction publique, sans concours. Donc ce serait pour les AED au bout des 6 ans qui veulent continuer à faire ce métier. Et là, on intégrerait vraiment la partie éducative du mot AED, assistante d'éducation. Ça serait le cœur de la fonction. L'aspect, voilà, gestion des classes, suivi des classes, suivi des élèves, sensibilisation à différents problèmes de société, aux problèmes d'addiction, aux problèmes d'homophobie, enfin tout ce à quoi on pourrait servir sur le terrain, repérer les enfants victimes de harcèlement par exemple, ou de violence, enfin voilà, une vraie mission d'éducation sur le terrain, au quotidien, tout au long de la semaine, toujours avec les jeunes, plus près des jeunes, quoi.
Et quant à cette proposition de statut et de titularisation, qu'est-ce qu'on vous répond ? Qu'est-ce que l'institution Éducation nationale répond ?
Alors, l'an dernier, donc le 1er décembre de l'an dernier, on a été reçu en audience par les services du rectorat à Toulouse. Et ce qu'on nous a répondu, c'est qu'on ferait remonter. On entendait tout à l'heure la ESH qui disait que c'est souvent ce qu'on leur répondait. On fait remonter. Alors la tuyauterie a l'air suffisamment importante en tout cas pour que l'info ait du mal à parvenir en haut. On a mobilisé des députés aussi, hein, des sénateurs qui sont intervenus à l'Assemblée nationale en alertant sur nos conditions. Moi j'ai déjà vu en entretien un député aussi. Donc qu'est-ce que tout ce beau monde en fait nous raconte ? C'est que non. En ce moment, la politique, en plus du gouvernement, c'est certainement pas de créer des postes de fonctionnaires. C'est plutôt même l'inverse, avec de la précarisation. On crée des contractuels chez les profs, hein, bon, dans tous les milieux, de toute manière. Donc non, c'est pas envisageable. C'est presque folklorique, ça les a fait sourire, qu'on puisse imaginer à un moment donné avoir quelque chose de pérenne qui s'installe dans le temps. Pourtant, les postes d'assistants d'éducation, enfin, ça fait très longtemps qu'il y en a dans les établissements, donc les besoins sont là. Et dans le privé, il me semble que quand on a un poste qui est ouvert de manière permanente, au bout d'un certain nombre de renouvellements, ben, on vous propose un CDI.
Justement, je voulais pas te couper.
Et pourquoi pas chez nous ? J'allais juste conclure avec ça. Pourquoi pas chez nous ?
Parce que ça me fait penser, il y a aussi une autre revendication, c'est que vous, en tant que AED, et d'ailleurs c'est le cas aussi pour les AESH, vous voudriez pouvoir vous voir verser la prime REP et REP Plus, qui, dans les établissements concernés, donc du coup concernés par... en gros, c'est des établissements qui sont, on va dire... identifiés comme ayant besoin de plus de moyens, en gros, pour faire simple. Donc, il se trouve que le personnel qui travaille, donc les profs, les personnels administratifs qui travaillent dans ces établissements bénéficient d'une prime. Mais cette prime, en fait, tout le monde en bénéficie, sauf les AED et les AESH. C'est une revendication que les AED portent depuis quelque temps, puisque Vous, hors antenne, on a parlé justement de paroles, d'un discours de Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, à ce propos.
Exactement. En fait, c'est totalement dans l'actualité, puisque ça date du mois dernier, où Jean-Michel Blanquer et l'Assemblée nationale ont voté contre un amendement au budget de l'éducation qui prévoyait de verser la prime REP et REP+, aux assistants et assistantes d'éducation, seul personnel non concerné par le versement de cette prime, qui sont pourtant en ligne de front pour être au contact de ce public difficile.
Bien plus qu'une secrétaire administrative, si je peux me permettre.
Par exemple, donc l'objectif, ce n'est pas de retirer la prime à la secrétaire, non. Mais par contre, comment ça se fait que les personnels les plus en contact avec des comportements difficiles à encadrer, l'objectif aussi de cette prime, c'est de rappeler au personnel qu'on reconnaît leur investissement, qu'on a besoin d'eux, et qu'on sait que ce n'est pas simple. On sait que ce n'est pas simple. Et pourtant, on n'y a pas droit. Et pas plus tard que le mois dernier, Jean-Michel Blanquer a dit que c'était pas possible budgétairement de verser cette prime. Et c'est l'une des plus grandes injustices, je trouve, et je pense aux collègues qui sont en repéré plus et qui venaient l'an dernier sur nos mobilisations et qui nous disaient que c'était l'une des pires injustices de notre poste. C'était vraiment ça, quoi. On s'en prend plein la tronche toute la journée. Par les élèves, par les parents, dans un contexte particulièrement difficile où le climat scolaire est très tendu. Et en plus, on doit accepter, au-delà de tout ce qu'on a à dénoncer, leur spécificité de REP et REP+, on n'a pas droit à cette prime-là qui permettrait de voir les choses un peu plus sereinement, quoi. Enfin, quand on est payé au SMIC, une petite prime en fin de journée, quand on s'en est pris plein la tête, ça ferait du bien, quoi.
Ouais, puis en fait, il y a le côté du côté des travailleurs, mais en fait, toutes ces questions, dès qu'on lutte pour l'élargissement du droit des précaires de l'éducation nationale, en fait, on se bat pour les élèves et les enfants et les ados de milieux populaires et autres, pas que, mais parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que c'est un métier du social et qu'en fait... précariser tous ces métiers, en fait, ça revient à proposer aux élèves des services qui sont au rabais. Ça revient en fait à proposer. Alors, ne parlons même pas des enfants qui ont des handicaps et qui du coup n'ont même pas de prise en charge adaptée. Donc, on a bien entendu en première partie d'émission. Mais en fait, ne serait-ce que d'avoir en face d'eux des adultes qui sont épuisés, qui sont au bord de la crise de nerfs et qui vont leur parler potentiellement. Leur parler. Alors, c'est pas pour déresponsabiliser. Les questions d'autorité et d'agisme dans l'éducation nationale, mais quand même, ça joue, en fait, nos conditions de travail sur la manière dont on va traiter et pouvoir supporter et traiter et accompagner les élèves qui, par ailleurs, ont une vie, soit chez eux, soit en général, qui est pas facile, quoi. Et que l'école soit aussi un lieu où ils puissent se sentir bien.
Et d'ailleurs, la formation pour mieux répondre à ces besoins scolaires, individuels ou collectifs, fait partie de vos revendications ?
Complètement. La formation, elle est essentielle. On travaille avec un public qui est particulier, du fait que ce soit des ados, du fait que ce soit des jeunes. Mais en plus, on peut travailler avec un public difficile, qui viennent, des fois de milieux compliqués, ils ont perdu leurs parents. Enfin, moi, j'ai vu des gamins qui viennent d'Afghanistan, ils ont vu leurs parents exploser sous les bombes. Enfin, il y a des prises en charge, quand même. On peut pas... employer des gens parce qu'ils ont 20 ans et qu'ils ont le bac, puisque c'est les seules conditions pour être assistant d'éducation, au contact de public sans être armé. Donc heureusement, nous sommes toutes et tous des belles personnes, et donc on est capable d'apporter de l'humain, d'humaniser ce métier-là. Mais c'est vrai que le manque de moyens fait qu'on travaille dans des conditions difficiles où on est sur du quantitatif et pas du qualitatif, donc c'est compliqué. Et la formation, elle est essentielle. Moi, ce qui me choque, c'est de voir des flics qui viennent dans nos bahuts parler de harcèlement scolaire, alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas formés au harcèlement scolaire. Nous sommes les premiers acteurs et actrices à pouvoir repérer le harcèlement scolaire et à pouvoir lutter contre le harcèlement scolaire. Donc on va payer des interventions de policiers qui vont venir dans nos bahuts pour venir une heure en classe, intervenir, expliquer ce que c'est, puis ils repartent. Et du coup, on laisse le personnel qui est en place comme ça. Débrouillez-vous. Mais en tout cas, le mot d'ordre, c'est celui-là, lutter contre le harcèlement scolaire. Comment vous débrouiller ? Voilà, vous n'avez pas les dotations qu'il faut en termes de personnel. On va se consacrer pleinement sur l'envoi des textos aux parents à 8h10 le matin pour prévenir que votre enfant n'est pas là. On va faire tout ça toute la journée. Et à côté, on va manquer de temps pour pouvoir justement engager des discussions, essayer de repérer l'isolement social aussi. Chez certains gamins, c'est évident qu'il y a des problèmes de socialisation. On n'a pas toujours le temps d'aller leur parler et de leur consacrer du temps. Et puis tout le temps nous est pris par les éléments difficiles, par les gamins difficiles. Donc tous les gamins qui bossent et qui vont bien, on n'a pas de temps à leur donner et pourtant ils méritent tout autant qu'on s'intéresse à eux. Moi des fois ça m'arrive de m'excuser auprès des élèves qui se comportent bien et qui travaillent et qui ne se font pas remarquer, de m'excuser en lui disant « Excuse-moi, je n'ai jamais le temps de venir te parler, mais ce soir là j'ai 5 minutes, j'aimerais bien parler avec toi si ça ne t'ennuie pas. » Et puis on va parler un peu de ta vie, de ce qui t'intéresse. Et puis des fois on apprend des choses formidables et des fois un peu moins rigolotes. Mais c'est toujours intéressant de mieux connaître le public avec qui on bosse.
Alors, bon, pour rebondir là-dessus, il y a aussi malheureusement un manque de PsyEN, ancienne conseillère d'orientation, et d'assistante sociale. Il n'y a plus d'assistante sociale attribuée à un établissement. Maintenant, ils ont un secteur, et elles viennent quand on les appelle. Donc, quand il y a une vraie urgence, c'est compliqué. Et c'est toujours la coupe du personnel. Voilà, donc il y a moins de personnel. On peut moins bien s'occuper des élèves qui vont mal, donc encore moins bien de ceux qui vont moins mal. Et c'est très très compliqué pour nous psychologiquement à gérer aussi, de voir des personnes en détresse et de pas pouvoir faire grand chose en fait. C'est pour ça qu'on demande aussi un plan d'embauche hein, de personnel en vie scolaire et par extension personnel éducation nationale. Parce que plus on sera nombreux pour encadrer les jeunes et les accompagner, plus cet encadrement sera efficace. Voilà.
Mais c'est sûr qu'on est obligé de constater que les objectifs du gouvernement ne sont pas là, qu'ils sont tout simplement en train de détruire cette institution. Je ne suis pas pour la garder forcément à titre personnel, mais en tout cas, ils sont en train de la massacrer, ça c'est sûr, notamment par le manque de personnel. On a parlé de l'assistante sociale. Parlons des infirmières qui ont 3 heures de présence dans un bahut, qui sont sur 4 bahuts différents, ça c'est sûr. Les profs contractuels, les profs titulaires, de moins en moins, de plus en plus de profs contractuels. Et tout à l'heure, hors antenne, vous nous avez raconté quelque chose quand même, la mission qu'on vous a donnée.
Alors, ça, c'est la petite nouveauté Blanquer, qui a, je pense, essayé d'éteindre un petit peu le feu qui rougissait au fond des vies scolaires. Alors, ils ont décidé, idée magnifique, idée du siècle, d'autoriser les AED à faire des heures supplémentaires. Alors, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas déjà le faire, parce qu'on le fait déjà. Sauf que là, elles seront payées. Elles seront payées 13,11 euros brut exactement de l'heure. Et en fait, ces heures ont une utilité très spécifique. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quelle heure supplémentaire, ce n'est pas les rassemblements... Lapsus. Les remplacements. Ce n'est pas les remplacements, ni les heures administratives.
Ça, c'est un beau slogan. Plus ouais. De rassemblements, moins de remplacements.
Exactement. Alors, ces heures seront dédiées à pallier l'absence des professeurs. Donc, quand un professeur sera absent, on va mettre un AED avec la classe dans une salle et on va projeter... les cours du CNED. Et l'AED en charge de cette classe devra le surveiller et sera donc payé 13,11 € de l'heure brute. Donc c'est très problématique parce que c'est de l'enseignement qui n'en est pas d'ailleurs au rabais. À quoi va servir l'AED à part dire chut, prendre des notes, à rien. Parce que moi concrètement, si on me demande de surveiller la diffusion d'un cours de physique-chimie, faut pas qu'on me pose des questions parce que j'aurais pas compris. Donc je suis pas formée pour, c'est pas mon travail. Et puis quand même, pourquoi cette différence de traitement financier? Parce que on se rend bien compte d'une chose, c'est qu'un AED à 80%, s'il fait 5 heures supplémentaires de ce type-là, sera plus payé qu'un AED qui fait du 100%.
Donc 41 heures. Rappelons que le 100%, voilà, c'est 41 heures.
Donc nous, c'est vrai qu'on demande la prise en compte des heures supplémentaires, mais en tant que toutes les heures supplémentaires, on en fait un paquet. Quand on remplace des collègues absents de nuit, moi j'aimerais être payé déjà tarif de nuit, comme dans n'importe quel autre travail où il y a une majoration, et avec le supplément heures supplémentaires. Ça paraît logique, valoriser un petit peu.
Voilà. Et par exemple, à titre individuel ou collectif, mais est-ce que vous pouvez refuser cette mission ? De dire, je ne vais pas surveiller le cours du CNED, j'estime que c'est ni mon rôle, ni le rôle de l'éducnat.
Alors, ça dépend, est-ce que tu veux être renouvelé l'an prochain ou pas? Voilà,
je pense que ça résume bien. Voilà.
Si tu veux être renouvelé, tu accepteras ce qu'on dit.
Et comme n'importe quelle autre mission, en fait.
Hein. Et voilà. Voilà. Sinon, tu prends un risque.
Vous êtes très, très éjectable. Hein. Je sais que sur les mouvements, sur le mouvement que vous reprenez cette année, qui est donc une date, une anniversaire, hein, tu disais, puisque l'année dernière, il y a un an pile, il y avait eu un mouvement. Je sais que nombre de nombreux AED qui s'étaient mobilisés n'ont pas été renouvelés cette année.
Oui. Et moi, je fais un big up s'ils nous écoutent. Parce ouais. qu'ils étaient là, c'était. Enfin, ce sont toujours hein, des gens super qui nous racontaient des expériences dans leurs établissements, enfin, hyper touchantes. Et je pense notamment à des collègues qui étaient très impliqués dans la lutte contre la culture du viol et tout ça. Et. Enfin, ils nous manquent et ils ont été foutus dehors comme des malpropres et c'était dégueulasse. Pour autant, faut pas se décourager les gens. Faut quand même y aller parce qu'il faut qu'on le fasse, de toute manière.
Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, en fait, c'est le cadre de notre embauche. Hein. C'est-à-dire qu'on est, on est un petit peu les oubliés de la fonction publique, dans le sens où on est des contractuels de droit privé et non de droit public. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, bah, je ne suis pas juriste, hein, donc ni spécialiste du droit du travail, mais ça veut dire qu'on peut être licencié, en fait, tout simplement, et mis à pied en cours d'année. Voilà.
Je voulais juste proposer de faire une petite pause musicale avant qu'on se retrouve pour une dernière partie.
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
h45 sur Canal Sud dans le magazine, de retour pour sa dernière partie d'émission en compagnie de nos camarades AED pour justement parler du rassemblement jeudi 2 décembre. Comme tu le disais justement, limite on n'a pas le choix, on le fait, on y va. Mais quels sont les retours que justement vous avez des autres AED ou même plus généralement des précaires de l'EDUCNAT? Quand vous parlez mobilisation, quand vous parlez de vous mobiliser, de vous rassembler, de porter ces revendications.
Le retour, il est quand même plutôt bon, parce que la partie la plus difficile, qui était de convaincre et d'aller chercher dans les vies scolaires les collègues, on l'a beaucoup fait l'an dernier. Donc l'année dernière, on s'est déjà beaucoup confronté à des difficultés avec des personnes qui étaient primo-grévistes, qui ne sont pas syndiquées, qui ne sont pas politisées, qui n'ont pas cette culture forcément de faire remonter des revendications.
Qui va au-delà d'une culture politique ou pas, qui est simplement la position d'un travail non pérenne, donc un non-investissement dans la condition de ce travail, ce qui est le lot un peu des précaires qu'on a effectivement du mal à mobiliser.
Et effectivement, après, il y a cette crainte, en fait,
oui.
Qui est permanente, puisque moi, je me suis déjà vu dire par un chef d'établissement, pour une interview dans la presse, je l'ai prévenu quand même que j'allais passer dans la presse pour expliquer nos revendications, m'expliquer qu'il ne fallait surtout pas mal parler de l'établissement, parce que voilà, sinon on allait perdre des recrutements, donc c'était compliqué, mais qui m'a aussi laissé sous-entendre, attention, tu ne fais pas trop remarquer non plus, quoi, parce qu'on n'aime pas trop que tu viennes un peu semer le trouble comme ça dans notre établissement pérenne depuis 17 ou 18 ans, depuis que le statut existe, et que là, tout à coup, c'est la révolution en vie scolaire, ça ne va pas être possible, quoi. Donc on a beaucoup de collègues, oui, qui ont eu peur, beaucoup l'année dernière, un peu moins cette année, puisqu'ils se sont aperçus que quand même dans beaucoup d'établissements, il y a des structures syndicales aussi qui sont là pour les accompagner, pour les aider, et que nous aussi, on a veillé au grain un petit peu en faisant des communiqués pour alerter et pour dire attention. On avait prévenu le rectorat d'ailleurs, on avait dit s'il y a des pressions qui sont faites sur les collègues, on n'hésitera pas à revenir, mais plus nombreux, plus forts, et puis voilà, par contre on va monter dans les tours, parce que c'est pas normal que notre droit de grève... Aujourd'hui, il est extrêmement compliqué dans certains établissements à mettre en place, quoi. C'est pas possible.
Quand tu dis nous, est-ce que cette coordination est mise en place et j'ai envie de dire drivée par un syndicat ? Est-ce que quand tu dis nous, où en est ce mouvement par rapport au syndicat ? Quelle est la part voilà.
Ouais. Quand je dis nous, je parle pas du tout en tant que syndicaliste. Là, je parle vraiment au nom du collectif et donc des collègues AED, parce qu'on est monté en collectif. Il y a de tout, des syndiqués, des non-syndiqués, des SUD, des CGT, etc. Les syndicats, ils viennent vraiment en appui avec nous. Ils déposent les préavis, ils nous prêtent du matériel, on peut se réunir à la bourse. On est vraiment, vraiment accompagnés. Mais par contre, c'est vrai que nos décisions, nos revendications, nos réunions, on les fait nous. Et on a donc une structure démocratique qui permet d'échanger, de décider, de co-rédiger nos communiqués de presse. Notamment avec Eleonore, le communiqué de presse pour cette semaine, on l'a travaillé ensemble. C'est comme ça qu'on a voulu se monter. C'était un peu à côté des étiquettes syndicales, parce que on avait aussi beaucoup de choses à prouver, je pense. Et puis on voulait que ça nous appartienne, 100%. Et ça nous appartient à 100%, et du coup on en est très fiers.
Peut-être on peut reprendre, puisque à propos des revendications, ça peut paraître, enfin, c'est bien de le rappeler, vous demandez la baisse du temps de travail, de votre temps de travail, et l'augmentation du salaire.
Alors oui, on demande la baisse du temps de travail. Et là, je pense laisser intervenir Franck, qui a fait un petit comparatif entre le statut de surveillant il y a 17 ans et le statut d'AED à l'heure actuelle. Je pense que c'est assez parlant. Ça suffira.
Alors, assistant d'éducation, donc, c'est depuis 2003. Avant ça, on appelait ça MISE, maître d'internat, surveillant d'externat. Et le temps de travail à cette époque, c'était entre 28 et 34 heures par semaine, sur 36 semaines. Et aujourd'hui, on est sur pour un temps plein à 41 heures semaine, sur 39 à 45 semaines. Donc on est sur plus de semaines travaillées, avec plus de temps de travail sur la semaine, pour toujours la même rémunération, sachant qu'on n'a pas droit à la prime réprès plus en plus, qu'on n'a pas de prise en charge de la mutuelle, comme c'est le cas dans le privé, par exemple, que nos frais de cantine, on paye la cantine comme tout le monde. Donc c'est pareil, dans le privé, on peut avoir des prises en charge ou des avantages en nature que nous, on n'a pas. Donc en fait, non seulement on est précaire, mais en plus, on n'a absolument aucun accompagnement de rien du tout. MISE, c'était aussi un recrutement académique. Maintenant, le recrutement se fait par établissement. Donc en fait, suivant si votre tête revient un peu ou pas au chef d'établissement, votre poste, il peut être mis en danger. Quand c'est académique, on ne vous connaît pas trop. Enfin, c'est différent, donc on évalue que la qualité de votre travail. Il n'y a pas de relation personnelle qui peut intervenir. Avant MISE, les jours d'examen, quand vous étiez étudiant et que vous aviez des jours d'examen, vous étiez exonéré de récupérer ces heures que vous preniez pour aller passer vos examens. Aujourd'hui, si vous vous absentez pour passer un examen, vous devrez récupérer vos heures à un moment donné, sachant qu'on fait déjà 41 heures, plus les remplacements, plus tout ce qu'a dit Eleonore tout à l'heure. L'ancienneté, évidemment, elle ne rentre pas en compte, hein. Au bout de 6 ans, vous êtes toujours payé pareil, alors que vous êtes quand même normalement beaucoup plus
aguerri.
Beaucoup plus aguerri, ouais, pour pouvoir travailler. On n'en prend pas, on n'en tient pas compte. Le nombre de jours pour passer les concours, puisqu'on vous dit que c'est un emploi tremplin, hein, c'est pas un métier, c'est une fonction AED. Enfin, moi, mon téléphone, il a des fonctions. Moi, je suis pas une fonction. Je suis éducateur. En tout cas, c'est comme ça que je me revendique. Les concours, on avait 8 jours pour passer les concours MISE. Maintenant, on n'en a plus que 4. Alors, c'est un emploi tremplin, c'est un emploi pour les étudiants, tout ça, mais en fait, voilà, on s'aperçoit bien qu'on y a perdu dans cette histoire. Et enfin, voilà.
C'est... Ça sert juste de façade pour justifier la précarité de cet emploi.
Je trouvais intéressant tout à l'heure, il nous reste quelques minutes avant de rappeler le mot d'ordre et le rendez-vous. Lorsque vous avez parlé de titularisation, donc d'un nouveau statut entre un CPE et des AED, de suite, je me suis dit, le réflexe d'une ancienne, j'ai envie de dire, mais quid des étudiants? Et là, Éléonore, tu me réponds, et je trouve ça très intéressant, mais en milieu rural, il n'y a pas d'étudiants.
Ah non.
En effet, il n'y a pas de fac. Donc, il pourrait être intéressant de réfléchir à différentes organisations et différents statuts pour des établissements en milieu rural. En ville, en effet, réserver ça, par exemple, aux étudiants ou autres, enfin, ou en tout cas, ou plus majoritairement. En tout cas, réfléchir à ces deux situations, évidemment, qui sont bien différentes.
Alors, cette année, quand même, les vies scolaires et les CPE ont fait remonter des problèmes de recrutement. Ça a été difficile cette année de constituer les équipes avant la rentrée. Dans mon établissement, on a recruté jusqu'à encore il n'y a pas très très longtemps. Donc ça veut dire une rentrée en sous-effectif et tous les problèmes d'organisation que ça comporte. Et ce problème de recrutement, eh bien, je pense que la titularisation déjà l'allégerait. C'est-à-dire qu'on serait sûr de commencer l'année avec tant de personnes qui connaît l'établissement, qui connaît les élèves, les parents, les relations interpersonnelles au sein de l'établissement, son fonctionnement, etc. Donc ça faciliterait quand même grandement la tâche des CPE, pour qui le management et le recrutement, malheureusement, je pense pour eux, fait partie, prend une trop grande place finalement dans leur fonction. Et c'est vrai qu'en milieu rural, beaucoup d'établissements sont encore en sous-effectif en vie scolaire puisqu'ils peinent à recruter au vu de l'importance de la charge de travail et du salaire qui va avec. C'est-à-dire pas fou.
On a encore 5 minutes. Peut-être préciser un petit peu cet appel de jeudi prochain. Est-ce que l'idée, c'est peut-être d'accompagner ça pour ceux et celles qui le voudraient, de mouvements de grève dans des bahuts? Est-ce que l'idée, c'est de revenir selon la réponse qui aurait été faite par ou pas par le rectorat? Comment est-ce que vous voyez les choses et qui vous invitez à vous rejoindre?
Alors aujourd'hui, on invite tout le monde à nous rejoindre, hein. Comme toujours. On sait que de toute façon, il faut faire converger tout ça. Les AESH, nous, les profs, les contractuels, les CPE aussi.
Les parents d'élèves.
Les parents d'élèves. Les CPE, j'insiste, parce que dans des bahuts, on a les CPE qui bloquent un peu la grève. Et puis, on a des fois des CPE parfaitement lucides et qui sont complètement avec nous. Les parents, c'est pareil, il faut absolument qu'ils entendent ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'au-delà de nos conditions de travail, nous, en tant que salariés, il y a aussi l'intérêt à ce qu'on soit formé, à ce qu'on soit qualifié, à ce qu'on soit mieux reconnu, à ce qu'on soit installé dans nos établissements. C'est parce qu'on est au contact de leurs jeunes. Et particulièrement, si votre jeune il a des difficultés à l'école, que ce soit scolaire, que ce soit en termes de comportement, qu'il est un peu agité, etc., c'est des personnes comme nous qu'il faut pour pouvoir les accompagner. Donc c'est dans l'intérêt des familles, c'est dans l'intérêt des jeunes, c'est dans l'intérêt de tout le monde, du plus grand nombre, de tout le personnel qui y travaille, parce qu'on pourra enfin peut-être travailler dans des conditions un peu plus sereines en ayant des équipes constituées. Les élèves sont aussi invités à nous rejoindre dans la lutte.
Alors ce rendez-vous, quand, où, comment, on rappelle tout?
Alors, c'est jeudi 2 décembre, à 14h devant le rectorat de Toulouse.
Alors, rectorat, attention, plusieurs antennes.
Alors l'adresse. Là, on parle du rectorat. L'adresse exacte, je ne l'ai plus.
Rue Saint-Roch.
Oui, c'est ça.
75 rue Saint-Roch.
C'est ça, 75
rue Saint-Agne.
Voilà. De toute façon, historiquement, voilà, on a l'habitude de se réunir là-bas maintenant. Mm-hmm. Les plus aguerris connaissent, oui. Toi-même, tu sais. Mais pour, voilà. Après, le mot d'ordre, c'est que voilà, s'il y a des AE, des AESH qui nous écoutent, c'est évidemment de créer le débat dans les vies scolaires, d'en discuter. S'il y a des CPE, par pitié, de ne pas bloquer. Et à un moment donné, où, voilà, il faut arrêter de vouloir garder tout le monde sous contrôle. C'est, ça ne sera pas possible de toute façon. Et puis, aux collègues qui nous écouteraient aussi, c'est on a les moyens aujourd'hui de vous accompagner, ne serait-ce que dans vos questionnements sur est-ce que j'ai le droit de faire grève, est-ce qu'ils ont le droit de faire ci, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça. Vous pouvez vous tourner vers vos syndicats, si vous en avez ou pas d'ailleurs. Mais le collectif, il est aussi là pour ça. L'année dernière, on a fait beaucoup de sensibilisation par rapport à ça, à ce qu'on a le droit de faire ou pas. Et beaucoup se sont aperçus que, ben, y avait trop d'abus et du coup nous ont rejoints. Et puis ensuite, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que de toute façon, il faut y aller, quoi. Il faut y aller.
Comment on joint ce collectif ? Si moi, je suis AUD, que je t'entends aujourd'hui, que je n'ai pas envie de me syndiquer, comment rejoindre ton mouvement ? Votre mouvement ?
Alors, mon 06. Non, je rigole. je rigole. Alors, sur Facebook, on a une page qui s'appelle Vie scolaire 31. En rejoignant cette page, vous rentrerez ensuite dans un groupe d'échange dans lequel on communique et vous pouvez aussi parler librement. On a une adresse mail, agaed31@gmail.com, sur laquelle on peut évidemment nous écrire, nous contacter. Et une fois que ces prises de contact auront été prises, on se mettra en relation à différents niveaux. Après, on a un Discord sur lequel on prend nos décisions et on fait nos réunions, ce genre de choses.
Merci beaucoup. Je mettrai le podcast en ligne. Donc, si vous voulez retrouver ces infos, vous les retrouverez. Je vais prendre 2 minutes pour réannoncer les rendez-vous de demain, sauf si vous avez quelque chose à dire encore.
Merci de nous avoir reçus.
Oui, merci beaucoup.
Parce que l'une de nos difficultés, c'est aussi d'être visible.
Et la radio, c'est un peu compliqué.
Alors, ouais.
Mais...
c'est clair.
Alors, se rendre audible.
Voilà, se rendre audible et visible, tant qu'à faire. Donc, merci en tout cas de nous avoir reçus.
Merci à vous.
Merci à vous. Et donc, je précisais le rendez-vous de demain, l'action coup de poing contre la réforme de l'assurance chômage. Ça se passe donc à 14h à Jean Jaurès. Donc voilà, prenez un ticket de métro. L'idée, c'est de se battre contre la réforme de l'assurance chômage, contre cette construction sociétale toujours plus sécuritaire au détriment de nos libertés. Donc voilà, ça ce sera le rendez-vous un petit peu général à 14h. J'en reparle puisque c'était vraiment le thème de la journée, ce rendez-vous de demain, mercredi 1er décembre à 8h pour une école inclusive par les parents d'élèves de l'école Étienne Billière. Ce sera devant l'école à 8h rue des Tures pour soutenir justement les AESH, donc les assistants d'éducation pour les élèves en situation de handicap. Si vous avez des questions ou que vous n'êtes pas dispo demain à 8h, ce qui s'entend, vous pouvez les joindre par mail à fcpe.billière@gmail.com. Et voilà, et puis du coup je rappelle le rendez-vous du jour, c'est à 17h30 devant la préfecture à Toulouse pour la levée des brevets sur les vaccins Covid. Allez, bonne journée, à demain, ciao.